Et nos politiques, votre point de vue là-dessus ?
Alors la politique, c'est un vrai problème justement aujourd'hui, parce que autant on pouvait être fier de ce qui s'était passé en Bretagne dans les années 50-60, où quasiment toute la classe politique, différents courants confondus, s'était mobilisée pour la survie de la région. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a une classe politique hors sol qui ne pense pas, sauf le temps d'une élection, aux enjeux de la société qu'il représente. Et là, c'est un vrai problème. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je reprendrai la formule, hein, parce qu'elle est excellente. C'était celle de Michel Fipponeau qui, en 70, lorsque le Célib s'est écroulé, a parlé de trahison des notables. Lesquels notables avaient, pour quelques postes ministériels ou quelques postes au sein des partis, abandonné le combat en faveur de leur région. Ben, on est un peu dans le même cas de figure aujourd'hui. C'est moins brutal, mais c'est tout aussi évident.
Certains politiques actuellement réévoquent la Bretagne à 5. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, ça fait rigoler, hein, parce qu'ils ont tout fait pour la combattre jusqu'à présent. Oui, quand je vois Bernard Poignant évoquer ça dans le journal aujourd'hui, que ne l'a-t-il fait dans ce cas-là lorsqu'il était lui-même conseiller du président de la République ?
La Bretagne dans l'Europe aussi ?
La Bretagne dans l'Europe ? Alors, vaste question, là. Autant la Bretagne reste pour moi un territoire qui a une vitalité et encore des forces vives, une originalité en plus de milieux qui lui permettent de se distinguer au sein de l'espace européen et qui est distingué au sein de l'espace européen. Allez en Allemagne. Il y a une dizaine d'années, je suis allé faire une conférence à Hambourg pour présenter la Bretagne. C'était merveilleux. Hein, les Allemands, ils sont étonnés de voir ce qui se passe. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point on est dans cette vision conservatiste là et patrimoniale. Et par contre, ils ne voient pas que nous perdons cette richesse qui nous a été léguée par des générations. Et au sein de l'Europe, moi je reste persuadé, c'était le grand espoir des années 90, que quand il y avait encore une politique d'aménagement au sein de l'Union européenne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien la Bretagne avait un rôle majeur à jouer, peut-être pas sur toute l'Europe, mais au sein de la façade atlantique européenne. Ouais. Et j'ai beaucoup cru aux orientations de la conférence des régions périphériques maritimes à l'époque, ce fameux arc atlantique, qui était peut-être un discours de politicien, mais qui était en plus une réalité. C'est une réalité culturelle, c'est une réalité vivante, c'est une réalité qui est, je dirais, mes racines. Hein, moi, ce monde atlantique, je l'ai exploré du sud au nord, hein, dans tous ses détails. Et il y a bien là une unité spatiale, géopolitique, et dont on pourrait faire quelque chose. Sauf que l'Europe, comme la France, ont abandonné toute logique d'aménagement à partir des années 2000, et qu'aujourd'hui c'est le marché qui est maître roi et qui redistribue la chance aux uns et aux autres au gré de ses intérêts.
Votre discours paraît pessimiste.
C'est cette société
purement
économiste qu'il faut foutre en l'air, effectivement. Vivre, ce n'est pas que fabriquer, consommer et vendre. Hein. Vivre, c'est de la sociabilité, c'est de la relation au milieu, c'est du partage, c'est plein de choses, quoi. Hein. C'est une complexité que aujourd'hui les visions qui nous guident ne sont pas capables de mettre en œuvre.
J'ai bien aimé votre phrase tout à l'heure avec nos confrères de Ouest-France. Un pessimiste, c'est...
Ah oui, un pessimiste. Oui, alors mon discours peut paraître pessimiste, mais comme je le dis souvent, être pessimiste, c'est être un optimiste averti ou informé. Hein, il faut être réaliste surtout. Il faut bien voir quels sont les enjeux qui nous manipulent, qui nous broient, mais aussi les opportunités qu'on peut avoir.
C'est sortir un livre justement concernant cette situation.
Avec la maison d'édition Skolvreis et surtout le mouvement culturel Arfaz qui est derrière, nous avons l'envie de lancer ce manifeste. Il paraîtra début avril, je pense qu'on en parlera pas mal, pour interpeller toutes les classes politiques, militantes, qu'elles soient syndicales, professionnelles ou autres, parce que la Bretagne a besoin d'un sursaut, comme elle l'a eu après la guerre. Avec le Célib. C'est très clair, on est plein à le dire d'une manière quasi incantatoire, mais rien ne se fait. Et il y a un besoin de remobiliser toutes les forces, c'est évident. C'est évident.
Alors, rendez-vous le 3 mars à l'Océanis, à Plumeur, 14h30. Hein. L'entrée libre, attention.
Sinon, dans 10 ans, il n'y aura plus d'autres rendez-vous, je ne pense pas.
Lucien Gouron qui va intervenir. Alors, qu'est-ce que Lucien Gouron va faire pendant ce... Il va donner une petite note humoristique.
J'en sais rien, mais comment MGLO me confie l'animation de ses fondamentaux depuis 11 ans maintenant. Donc, on a abordé un tas de thèmes, l'histoire, la langue, la danse, la cuisine, tout ça. Donc, on n'a rien fait autour de la géographie. Donc, on s'est dit que c'était intéressant. Donc, moi, je joue le rôle de maître de cérémonie, hein, petit peu, quoi. Je présente Yves Le Bailly, et puis après, lui, il a une heure, puis il y a une petite pause café, c'est gratuit, tout ça, hein, donc... Et puis après, le deuxième partie, le public pose les questions en fonction de l'intervention que Yves Le Bailly aura faite dans l'heure qui aura précédé, quoi, voilà.
3 mars, donc. C'est gratuit, attention.
Absolument. Y compris le coup de café, le chocolat, les petits gâteaux, tout. Ouais, ouais, tout ça, c'est gratuit. Même la bière. Ouais. Ouais, le coup est offert par Emblo. Ouais. Voilà.
Très agréable.
Ouais, très agréable.